Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire.
RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.
On arrive, bienvenue dans votre podcast After Galaxy. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre, quel que soit votre appli, votre support. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner au podcast After Galaxy. Aujourd'hui, on va vous faire bouger à travers les chiffres, les stats. À quoi sert donc la data? Lesquelles sont utilisées? Pourquoi? Comment? On va tenter d'y répondre à travers des exemples concrets venus de l'étranger.
1. Si aujourd'hui je prends le chromie, ce n'est pas pour te parler de balistique. Bon, t'as l'habitude, mais cette fois-ci je clique. C'est pour qu'on fasse un peu de statistiques, qu'on étudie les caractéristiques.
Ah, je savais que vous kifferiez ce son. Son signé d'ailleurs Grid Teacher et Sava, qui est prof de maths au collège et rappeur. Voilà, ses heures perdues du côté de Montreuil. C'est peut-être là que nos invités sont allés. Ce qui pourrait d'ailleurs peut-être expliquer leur passion pour les chiffres et la data. Avec nous dans ce podcast After Galaxy numéro 23, Johan Crochet. Salut Johan.
Salut Nico, bonjour à tous.
Notre statisticien maison à RMC, RMC Sport sur la Pay TV notamment, Loïc Moreau. Salut Loïc.
Salut tout le monde.
Et lui connaît aussi très bien la maison, c'est un plaisir de le retrouver, Julien Maumont. Salut Julien.
Salut Nico, bonjour à tous.
Alors qu'il nous régale sur sa chaîne YouTube d'ailleurs. Tout se passe bien
Julien? On essaie, ça se passe bien. Vous manquez mais ça se passe bien.
Bah toi aussi tu nous manques, figure-toi. Voilà, c'est pour ça qu'on est content que tu sois là. Et puis il est performance analyste au Servette de Genève et il nous fait le plaisir d'être parmi nous, Mathieu Féjean. Salut Mathieu.
Salut à tous.
Voilà, depuis le stade de Genève. Alors d'ailleurs, parce qu'on cache rien à nos auditeurs, Mathieu, tu es sous le stade.
Ouais, exactement. Je suis dans mon bureau en fait, et puis c'est là que je travaille tous les jours en fait.
Alors présente-nous un peu ton parcours, Mathieu. T'as quelle formation de base? Comment tu t'es retrouvé à bosser dans un club de foot professionnel en Suisse?
Bah souvent c'est des histoires de rencontres. En fait, moi je suis nantais à la base. J'ai fait STAPS en France pour ceux qui connaissent un peu les études. Orienté vers le sport. Et puis, par un concours de circonstances, je me suis retrouvé à faire ma thèse, donc mon doctorat, à Berne. Donc, c'est dans la Suisse allemande. Et pendant que je faisais ce doctorat, en fait, j'ai contacté les clubs de Super League, donc la première division en Suisse, pour collecter des données. Et puis, le Servette m'a gentiment accueilli pendant mon doctorat. Et à la fin de la thèse, ils m'ont proposé de venir faire ce job. Que j'ai gentiment accepté.
Voilà, ça pourra peut-être donner des idées à certains de nos auditeurs également. Voilà, des vocations qui se révèlent également au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des rencontres. Alors, Johan, l'idée de ce podcast, on vous le redit, l'idée, c'est vraiment d'expliquer à quoi sert la data à travers des exemples concrets basés notamment sur des clubs à l'étranger. L'idée de ce podcast, elle est venue de toi. Elle est aussi née d'ailleurs de ton envie de comprendre la relation que les médias peuvent parfois avoir vis-à-vis de la data, ce qui est souvent le cas d'ailleurs dans l'after. On connaît certaines prises de position assez prononcées en faveur ou contre la data d'ailleurs. Et c'est aussi ça qui t'a donné envie de faire ce podcast, Johan.
Bah oui, parce que le constat qu'on fait tous, c'est qu'on est entré dans une ère où la data s'est clairement démocratisée et on la voit s'afficher avec régularité dans les médias. Et là, on va parler principalement de l'angle média. Et derrière cette démocratisation-là, en fait, il y a plusieurs conséquences logiques. La première, c'est que le grand public n'est peut-être pas assez éduqué à l'intérêt des statistiques dans le football. Et c'est quelque part logique. On a tous été par essence enfants avant d'être adultes aujourd'hui. Et on a tous eu des cours de mathématiques. Et beaucoup ont été, alors je ne vais pas dire traumatisés, mais n'ont pas forcément beaucoup apprécié les cours de mathématiques où c'est pas très concret, où c'est toujours un peu difficile, etc. Et c'est vrai que c'est une première réticence assez forte aux chiffres. Et forcément, il y a peut-être un petit problème dans l'intérêt pour la data à ce niveau-là. Le deuxième, c'est que finalement, on observe ceux qui les utilisent au quotidien, ces données, qui comprennent leur utilité. Et autour d'eux, en fait, il y a deux extrêmes qu'on entend finalement assez régulièrement. Il y a ceux qui disent que ça sert à rien, que le foot, c'est pas des maths, que finalement, nos yeux suffisent pour comprendre ce qu'on voit. Alors, il y a plein de raisons. C'est soit par manque d'intérêt pour la stat, soit par la réticence face aux chiffres, l'ignorance, la méconnaissance, voilà, tout ce genre de choses. Et puis, à l'inverse, il y a aussi un discours où on ne voit plus le football ou le sport qu'à travers le prisme de la data, ceux pour qui la data fait tout et même parfois dans un certain aveuglement. Donc entre les deux, il y a un juste milieu qu'il faut présenter, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'il faut préserver aussi. Et je me suis dit que le meilleur moyen de parler de l'utilité de la data, de la stat aujourd'hui, c'était de faire parler ceux qui sont dans ce juste milieu, qui comprennent leur utilité et qui les associent à des analyses et à de l'expérience de manière objective. C'est un peu ça l'idée de départ.
Alors Loïc, toi aussi, tu connais bien ce rapport entre médias et data, puisque tu as bossé longtemps pour Opta, qui alimente plusieurs médias depuis une bonne dizaine d'années en France, qui a vu le jour au Royaume-Uni bien avant d'ailleurs. Alors d'ailleurs, c'est peut-être finalement cette différence temporelle, finalement ce retard entre guillemets que la France a par rapport à d'autres pays comme le Royaume-Uni, qui peut expliquer aussi peut-être certaines réticences, non ?
Bah ouais, carrément, il y a une vraie différence culturelle en fait d'approche de la data entre les pays anglo-saxons qui intègrent directement les stats. En fait, ils dissocient pas les deux, le sport des stats. C'est vraiment c'est partie prenante de leur vision du sport et une vision plus latine dont fait partie la France au final, où on sent que voilà, c'est d'abord le sport et le foot en particulier est d'abord un sport d'émotion. On est plus dans le romantisme et c'est vrai que ces différences d'approche en fait culturelles expliquent aussi le fait que la data soit arrivée plus tard en France qu'en Angleterre. Je rappelle, tu évoquais Opta est une émanation de la chaîne Sky Sports à la base, et Opta est né en 1996, donc aux alentours du championnat d'Europe. Pour avoir des stats, pour avoir Opta en vrai arriver en France, chez nous, il a fallu attendre 2006, donc 10 ans de retard, ce qui est quand même énorme. Pour des stats, on parle de stats basiques. Alors, le retard, il est peut-être pas aussi important, on va dire, il a été
un peu compensé.
Ouais. Alors, ouais, compensé, mais on voit encore, de par ce qu'évoquait Johan, de par certaines réticences auprès de la data, une mauvaise interprétation en fait de sa fonction, de ce pourquoi elle existe et de ce pourquoi elle est utilisée et ce vers quoi on doit tendre. Et du coup, voilà, on a encore des réflexions, des discours qui sont vraiment des discours préhistoriques par rapport à l'état en fait de la data, à sa place et à son importance dans le foot de nos jours.
Petit cours d'histoire avant de passer au maths. Depuis quand le foot s'appuie sur la data ? On va se plonger dans les années 50 en Angleterre pour vous exposer un premier exemple. The Hungarian champions Honved challenge Wolverhampton Wanderers at the Molineux Ground, Wolverhampton. Nearly 60,000 watch the Wolves kick off. Straight away they're attacking up the right wing, showing the courage that swept them to victory over Spartak. Hancock's worries goalie Farrago, who has little time to recover before left winger Smith has a go. En 1954, Wolverhampton s'impose face aux Hongrois d'Honved, et les Wolves, qui avec cette victoire symbolique s'approprient le titre très symbolique de meilleure équipe du monde, s'appuient sur les travaux d'un certain Charles Rip. Alors Julien, mon cher Julien Momont, explique-nous qui était cet homme qui était un fan de stats. Hein.
Ouais, c'est sûrement le premier statisticien du foot. C'était un ancien comptable d'abord, qui a aussi servi dans l'armée de l'air anglaise, et son état d'esprit par rapport à son... Une approche statistique justement du foot, c'était d'offrir un contrepoids au recours, à la mémoire, à la tradition et aux impressions personnelles qui ont conduit à la spéculation et aux idéologies du football. Donc il a petit à petit mis en place sa méthode. Son premier match analysé, c'était en 1950. Où il notait chaque passe, les points de départ, d'arrivée de ses passes, la longueur, la direction, la hauteur. Et au total, il a analysé plus de 2200 matchs. Et de tout ça, il a produit finalement un article scientifique en 68. Il a par exemple observé qu'entre 53 et 67, un but était marqué tous les 9 tirs en moyenne, que le taux de passe réussi était de 50% environ. Mais surtout, et sa conclusion qui a le plus marqué les esprits, qui a eu un impact le plus durable finalement sur le foot en Angleterre, c'est que 3/4 des buts à l'époque qu'il avait observé avaient été marqués après 3 passes ou moins, et il avait donc préconisé de limiter le nombre de passes. Il prenait un jeu très direct. Le problème, c'était que son analyse, c'était vraiment très anglo-centré, pas représentatif du jeu non plus développé ailleurs, en Amérique du Sud par exemple, ou sur le continent. Mais ça a eu un impact durable outre-Manche, je le disais, parce que par exemple, dans les années 80, l'équipe de Watford se basait encore sur ses travaux pour choisir un jeu très direct.
Alors Mathieu, je sais que ça te parle, Charles Rip également.
Ouais, parce qu'il y a un pan de la recherche qui s'intéresse à l'activité collective. Et il y a une des théories qui considère que chaque joueur doit faire correctement ses tâches pour que le collectif marche bien. Et en fait, ça, on appelle ça l'analyse notationnelle. Et Charles Rip, en fait, c'est le pionnier de cette analyse notationnelle, c'est-à-dire qu'il prenait des notes sur chaque joueur, sur ce qui se faisait sur le terrain, avec des chiffres globalement.
Alors Julien, dans un autre registre, et si on fait un bond dans le temps, il y a le grand Dynamo Kiev également de Valery Lobanovsky dans les années 70-80 qui avait lui aussi recours aux bases de données.
Lobanovsky qui avait une approche vraiment scientifique et de chercheur dans son métier d'entraîneur. Il l'avait dit d'ailleurs dans France Foot en 88, il disait « Toute activité humaine, et le football en est une, repose sur une réflexion scientifique ». C'est pas un hasard, hein, parce qu'il avait lui-même un diplôme d'ingénieur, il avait été un brillant en maths au lycée, notamment dans une époque aussi en URSS où le progrès scientifique était vraiment une obsession. Donc il a développé son esprit d'entraîneur dans ce contexte-là. Et donc ça a été un pionnier par exemple de l'analyse vidéo des adversaires. Il avait une vidéothèque gigantesque du foot international au centre d'entraînement du Dynamo Kiev. Il collaborait avec un spécialiste en bioénergie, Anatoly Zelentsov. Il utilisait l'informatique pour l'analyse de données tactiques, techniques, physiques. Et il avait aussi une vision systémique du jeu. Ça, c'est un peu très mathématicien, finalement. C'est-à-dire qu'un match était pour lui une opposition entre deux systèmes dans lesquels chacun était un sous-système de 11 éléments. Il modélisait ces systèmes, les associations, les interconnexions entre les éléments. Les joueurs, il faut le dire, étaient un peu considérés comme des robots dans son approche, finalement. Et lui disait que c'était un peu fidèle aussi avec l'esprit de l'URSS. Et il voulait s'appuyer sur les points forts, notamment scientifique de l'URSS à l'époque, pour son approche du foot, et avec l'objectif qui est le même finalement des entraîneurs aujourd'hui, même s'il était peut-être un peu pionnier là-dedans, c'était d'effacer au maximum la part d'aléatoire du foot pour ne pas se reposer sur la chance, même s'il consentait aussi que le foot ne pourrait jamais devenir une science exacte.
On va maintenant tenter d'expliquer, toujours avec des exemples concrets à l'appui, quelle utilisation est faite aujourd'hui de la data au sein des clubs. On va commencer par voir comment les données peuvent aider les clubs à recruter. On va s'appuyer sur un premier exemple en Angleterre. En mai dernier, Brentford retrouvait l'élite après des années d'attente.
74 years of waiting. Brentford Football Club are back in the top flight of English football. Thomas Frank has done it. The longest, worst playoff record in English football history is finally given a happy ending. Brentford are promoted to the Premier League.
Alors Julien, Brentford est peut-être l'un des exemples les plus significatifs et marquants des clubs modernes qui bossent avec la data, notamment en ce qui concerne le recrutement.
Oui, tout ça, cette approche novatrice, elle a été impulsée par le propriétaire, Matthew Benham, qui est un diplômé d'Oxford, qui a aussi travaillé dans la finance, et qui est fondateur de Smart Odds, qui est une société de paris sportifs à l'origine. Et il a développé un algorithme d'analyse des matchs et un modèle pour objectiver aussi le contexte dans lequel évoluent les joueurs ciblés par le recrutement, c'est ce que tu disais. Ça permet notamment de repérer des joueurs sous-cotés. C'est un peu dans l'esprit de Moneyball le concept de l'utilisation des données pour exploiter les déficiences du marché des transferts, qui était le cas en baseball à l'origine, qui est adapté maintenant au foot. Et donc, par exemple, au quotidien, les joueurs reçoivent leurs données de performance via WhatsApp. Le club s'attache aussi plus à un classement alternatif, qui ne prend pas en compte uniquement les points, qui dépendent parfois un peu trop d'aléatoires, mais aussi d'éléments précis de performance. Néanmoins, même à Brentford, finalement, qui a totalement intégré ces données dans son fonctionnement quotidien dans tous les domaines du club, il y a pu y avoir aussi parfois des frictions encore entre des scouts traditionnels, entre guillemets, des coachs et les analystes, avec des visions parfois contradictoires. Donc même dans l'endroit où on pense que c'est idyllique, il y a aussi encore ces débats en interne qui se font jeu.
Mathieu, quand on est performance analyste comme toi, est-ce qu'un club comme Brentford, c'est l'endroit où on rêve de rêver, de bosser finalement?
Ouais, bah c'est clair que c'est hyper intéressant comme club, notamment au travers des stratégies et des réflexions qu'ils mènent. Par exemple, on voit qu'ils ont supprimé l'académie pour mettre une équipe B, c'est pas un hasard. On voit que dans leur recrutement, ils utilisent la data de manière très poussée. Et puis aussi dans l'analyse du jeu, game analysis, on voit qu'ils utilisent les gains marginaux de manière très poussée avec les corners ou les set pieces. Donc en fait, au-delà de vraiment l'utilisation de la data, on voit qu'il y a vraiment une stratégie, une réflexion pour optimiser la performance du club de manière globale, quoi.
Alors pour revenir vraiment à la data qui est utilisée pour le recrutement, Loïc, il y a des exemples concrets de joueurs recrutés grâce ou via la data. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, cela dit.
Bah oui, c'est comme tout, c'est pas une science exacte, c'est ce que rappelait Julien. Alors on a cité Brentford qui est l'exemple le plus extrême, on va dire là ils basent vraiment leur recrutement quasi exclusivement sur la data. Après il y a d'autres exemples marquants, je citerai celui d'N'Golo Kanté qui a donc signé...
À Leicester,
en 2015, en provenance de Caen, recruté sur la data. En fait, Leicester avait sollicité Opta à l'époque pour lui fournir en fait des profils de joueurs qui correspondaient à ce qu'il recherchait selon des critères stats bien définis, puisqu'il cherchait un milieu défensif. Et avec la suite que l'on connaît, donc un recrutement qui a permis de découvrir un joueur, en tout cas pour Leicester de s'attacher à un joueur qui leur correspondait parfaitement et qui ensuite a explosé pour être d'abord champion avec eux, puis ensuite avec Chelsea.
Et tu as l'exemple d'un mec pour qui ça n'a pas du tout fonctionné, justement.
Bah oui, il y a toujours le contre-exemple qui va bien. C'est comme tout, on ne peut pas avoir... On ne peut pas avoir 100% de réussite, sinon ça serait, tout le monde pratiquerait le recrutement uniquement basé sur les stats. Mais il y a l'exemple, là aussi frappant, de Stewart Downing, qui est un ancien international anglais, et qui a été recruté en 2011 par Liverpool, parce qu'il cherchait un joueur à associer à Andy Carroll, notamment, qui avait été recruté donc, pour remplacer Fernando Torres. Andy Carroll, dont on connaît les qualités de jeu de tête, notamment.
Oui, le prix aussi.
Le prix, voilà, mais du coup... La réflexion des dirigeants de Liverpool à l'époque, c'était de se dire bon, bah, pour servir un mec qui est bon de la tête devant, qui est bon finisseur, on va essayer de lui trouver un gars qui est bon passeur et qui plus est sur coup de pied arrêté ou avec une grosse qualité de centre. Et Stewart Downing cochait toutes les cases, en fait. Il était vraiment, il apparaissait comme la recrue idéale. Et puis bah, au final, sa première saison à Liverpool, 0 but, 0 passes D. Donc foirage total, mais encore une fois, c'est difficile, on ne peut pas toujours taper juste, d'autant plus que, bien évidemment, au-delà des stats, il y a tous des paramètres impondérables qui font que ça n'a pas fonctionné, du moins la première saison, puisqu'après il en a fait une deuxième meilleure. Mais voilà, encore une fois, les stats sont une aide au recrutement, mais pas une fin en soi.
Johan, il y a aussi des exemples de clubs italiens qui emploient la data pour le recrutement. Alors, il y a l'Atalanta Milan. Alors là, ça devient encore plus intéressant parce qu'on bascule dans quelque chose qui est carrément culturel, finalement.
Ouais, Julien vient en effet de parler de l'exemple marquant de Brentford et de Midtjylland d'ailleurs au Danemark, qui était du même propriétaire. En Italie, déjà,
Matthew Brenham, voilà.
Exactement. Il faut savoir qu'il y a un vrai écosystème lié à la data et au foot. Alors c'est aussi lié au fait que les Italiens sont passionnés par le football, et donc quand on peut réussir à allier innovation et passion, c'est toujours bien. Mais par exemple Wyscout, qui est utilisé partout dans le monde entier maintenant, est une société italienne à la base. Je vais vous parler ensuite de deux autres sociétés dans quelques instants qui ont aussi été créées en Italie. Donc il y a un vrai écosystème en Italie lié à la data dans le sport. Et un club comme l'Atalanta, par exemple, travaille notamment avec une société spécialisée, donc ça c'est la première des deux dont je vais vous parler, qui s'appelle Wallabies, qui est une société italienne qui utilise un mélange d'algorithmes et d'intelligence artificielle pour détecter plusieurs données, et notamment comparer en fait les différents profils de joueurs et chercher des joueurs similaires à un joueur de l'effectif. Je vous donne un exemple, si je suis l'Atalanta aujourd'hui et que je veux un profil similaire à celui du piston gauche Robin Gosens. Donc en gros, les qualités de Robin Gosens, on le sait, c'est le volume de course, c'est le nombre de ballons touchés dans la surface adverse, c'est le jeu aérien, c'est l'implication sur les buts de son équipe. Bah, vous allez sur la plateforme de cette société, Wallabies, vous entrez les caractéristiques de Robin Gosens et ça vous sort une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de joueurs qui ont un profil totalement similaire lié à de l'analyse statistique. Et ensuite, vous pouvez filtrer par zone géographique, par âge, par montant de transfert estimé, par durée de contrat, par taille, par poids, par tout ce que vous voulez. Mais c'est une vraie aide parce que c'est un vrai gain de temps. Et notamment la data, une des choses dont on va parler évidemment ensuite dans cet épisode-là, c'est que c'est une vraie aide à la décision et c'est aussi un accélérateur de temps parce que ça vous évite de consulter des milliers et des milliers de vidéos dans un premier écrémage que vous pouvez faire. Et à Milan, pour prendre un deuxième exemple, il y a une vraie culture de la stat qui a été appliquée plus récemment. Le directeur du recrutement de Milan, qui est un Français, m'avait expliqué qu'ils avaient un département data en soutien du département scouting, donc l'observation et la recherche de joueurs, et qu'ils travaillaient main dans la main. Et cette culture, en fait, elle a été exigée par le propriétaire de Milan depuis le 2018, c'est le fonds américain Elliott. Et Geoffrey Moncada m'avait dit que quand ils allaient voir leurs dirigeants pour débloquer des fonds pour les transferts, pour leur présenter les profils des joueurs qui sont ciblés, il fallait mieux venir avec un dossier complet. Et dossier complet disait data objective qui montreront ou qui montrerait l'apport éventuel estimé du joueur à Milan. Donc c'est la preuve aussi que ça peut être impulsé pas seulement par les personnes du terrain, les personnes du sport, mais aussi par ceux qui détiennent les clés, les finances des clubs. L'idée n'étant pas de dire que en fait, les stats, ça fait tout le recrutement, mais que c'est un outil aujourd'hui indispensable pour bien cerner le profil des joueurs, pour déclencher une prise de décision et pour gagner du temps aussi.
Mathieu, comment ça se passe au Servette? Est-ce que la data sert au recrutement? Est-ce que tu as mis quelque chose en place là-dessus, justement?
Alors ouais, effectivement, moi j'essaye de travailler avec le département scouting Disons que nous, on a des scouts qui n'utilisaient pas spécialement la data. Disons qu'ils utilisaient la data, mais pas avec des modèles très poussés. Et puis, ils ont été plutôt en réussite ces dernières années. Ils ont fait des très bons recrutements, pour être honnête. Et donc, ce n'est pas toujours évident de changer leur méthodologie et qu'ils utilisent les data de manière prépondérante. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de les aider au maximum avec peut-être des nouveaux modèles ou des data un peu plus poussées, des choses qui prennent un peu plus en compte le contexte du jeu, etc. Donc l'idée, c'est toujours de venir les aider avec soit du profiling, soit des modèles un peu plus poussés.
Mais ils sont réceptifs à ça, justement, tes dirigeants ?
Ouais, alors il y a toujours il y a plusieurs choses. Il y a les croyances qu'on a un peu quand on est en réussite et que les recrutements ça marche, on voit pas trop pourquoi changer. Et puis il y a aussi la question des connaissances, c'est-à-dire que il faut savoir de quoi ça parle un peu, c'est quoi un modèle, comment ça peut m'aider et tout ça. Et donc ça prend du temps, mais effectivement ils sont plutôt attirés par les idées. Et donc ça c'est cool pour discuter et puis pour progresser dans le temps.
Alors, faut-il miser sur la data pour recruter ou bosser à l'ancienne avec des scouts, justement ? Alors, Jean-Michel Aulas a expliqué en décembre dernier dans Rotten sans flamme sur RMC qu'il ne voyait pas l'utilité d'avoir plusieurs scouts.
La théorie que nous défendons, c'est qu'effectivement, envoyer 20 scouts des 20 plus grands clubs d'Europe voir tous les matchs, ça ne sert à rien. Les tendances sont totalement différentes. Ce qu'il faut, c'est avoir les bases de données de l'ensemble des joueurs, définir un certain nombre de critères qui permettent de savoir si on veut un joueur de couloir, un droitier, un gaucher, un athlète, etc. Définir toutes les caractéristiques. Et on va rechercher sur les bases de données tous les joueurs sur le plan européen, voire mondial, qui peuvent exister.
Alors, le président de l'OL qui a aussi expliqué, ce qui n'a pas été dit dans ces débats, c'est qu'on est la troisième meilleure académie d'Europe avec 16 scouts. On a 20 millions d'euros pour notre académie. On est les premiers en France à ce niveau-là. Alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Aulas, c'est qu'il préfère finalement placer des scouts là où les données, la data est rare, c'est-à-dire chez les jeunes. Alors, est-ce qu'il faut des scouts ou une bonne base de données pour bien recruter ? Johan, tu dirais quoi, toi ?
En fait, il faut les deux. Et je trouve que l'une des plus grandes incompréhensions aujourd'hui, quand on parle de statistiques dans le football, c'est qu'on veut opposer la data, donc les stats, les bases de données, au travail humain, en fait. L'idée, en fait, c'est pas de les dissocier, c'est de les associer. Il y a des choses que la data ne peut pas donner et l'œil humain est nécessaire. Je vais prendre un exemple tout bête, mais dans le process de recrutement d'un joueur, il y a plusieurs phases. Il y a évidemment déjà défricher pour trouver le joueur, il y a ensuite l'observation au stade, il y a ensuite les rapports qu'on peut faire sur des visualisations de matchs à distance, l'étude statistique. Mais il y a une chose que la data ne pourra pas faire, c'est quel est le comportement du joueur sur le terrain. Est-ce qu'il a des attitudes négatives ? Est-ce qu'il arrive à gérer sa frustration, sa déception, voire la poussée d'adrénaline ? Est-ce qu'il se comporte bien avec ses coéquipiers, avec l'arbitre, avec le coach ? On va étudier ses prises de parole dans les médias, sur les réseaux sociaux. Bref, c'est l'étude de la personnalité du joueur à travers ce qu'il fait sur le terrain et ce qu'il dit en dehors. Donc tout ça, c'est des choses que la base de données ne peut pas vous donner. Et à l'inverse, il y a une quantité d'informations que le cerveau ne peut pas traiter et engranger lorsqu'un recruteur est au stade. Lorsqu'un recruteur est au stade, il s'attache à diverses observations classiques, on va dire, mais il ne peut pas noter et se dire « Ah tiens, il a raté 3 passes sur 38. Tiens, là, il a gagné 2 duels sur 14. Là, il a fait beaucoup progresser le jeu de son équipe. Je pense qu'il a fait gagner 110 mètres à son équipe, etc. » Tout ça, il ne peut pas le faire. C'est impossible de traiter ces données-là. Donc, c'est la data qui va lui apporter la solution à côté. En fait, je trouve vraiment que une des plus grosses incompréhensions, et c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas opposer la data et l'homme, en fait. Il ne faut pas opposer le chiffre et l'homme. Il faut simplement réussir à allier les deux en très bonne intelligence.
Julien, tu réponds quoi, toi ? C'est vrai que ce débat, il est finalement intéressant. On a l'impression qu'il dure depuis un moment également.
Oui, c'est sûr, mais je rejoins totalement Johan là-dessus. C'est les deux sont complémentaires, en fait. Et ce que la data peut te faire gagner, en effet, comme le suggérait Jean-Michel Aulas, peut te faire gagner en couverture de zones géographiques, peut te faire gagner en présélection et donc en optimisation des coûts, en optimisation du temps. Il faut tout de même toujours le valider, à la fois peut-être d'abord par de la vidéo, ou en tout cas les deux, par de la présence sur place aussi, parce que la sensation qu'on a quand on regarde un joueur dans le stade, elle sera forcément différente de ce qu'on peut voir en vidéo. La vidéo est aussi restreinte par le plan de télévision qui limite un peu les choses sans ballon, par exemple, notamment pour un attaquant quand le ballon est en défense, on ne voit pas trop ce qu'il fait, comment il se place, etc. Enfin, voilà. C'est presque un faux débat de vouloir les opposer. Après, sur les propos de Jean-Michel Aulas, je serais curieux de voir justement quelle est la méthodologie mise en place pour optimiser justement les quelques ressources qu'il a mises sur le groupe professionnel en mettant en avant le fait qu'il bosse a priori sur de la data et sur de la vidéo. Parce que malheureusement pour lui, ce que montre l'OL depuis plusieurs mercato ne suggère pas qu'il y ait une grande cohérence méthodologique finalement. C'est sûr qu'on peut très bien bosser, comme le montre le Racing Club de Lens, avec une cellule recrutement assez modeste, mais avec des vraies idées, une vraie cohérence, une vraie planification, des vraies anticipations, aller chercher dans les bons marchés en fonction de ses moyens. Et j'ai pas l'impression pour l'instant en tout cas qu'on le voit à l'OL. Alors peut-être que c'est un processus qui se met en place, mais il faudra surveiller ça pour les prochains mercato.
Mathieu, est-ce que ce dilemme c'est pas finalement ce que tu es en train de vivre au Servette à Genève, à savoir essayer de mettre en place un nouveau fonctionnement alors que il y a plutôt un fonctionnement à l'ancienne justement avec des scouts, tu le disais tout à l'heure.
Ouais, je pense que je suis plutôt d'accord avec vous. C'est vraiment qu'il faut associer le travail de la data et des scouts pour aller. De toute façon, le truc c'est toujours d'optimiser la prise de décision et de réduire les erreurs. Donc, plus le travail va être collaboratif et on sait bien que plus les idées se mélangent et en général, meilleure est la prise de décision. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller là-dedans. Après, là où je trouve intéressant ce qu'il dit, c'est sur les jeunes et notamment sur l'identification des talents. Et je trouve intéressant qu'il investisse de l'argent dans des scouts, parce qu'effectivement, là où il n'y a pas de data, c'est plus compliqué d'aller chercher des talents.
Alors, il n'y a pas que le scouting et le recrutement hein, que la data peut servir au club. Au quotidien, elle peut aussi avoir d'autres fonctions. On va prendre un premier exemple en Italie. À l'Atalanta, mais aussi dans d'autres clubs de Serie A, de PL, la data sert aussi à appréhender les blessures. Alors, tu as trouvé une boîte spécialisée là-dedans, toi, Johan. Alors ça, c'est hyper intéressant. Je t'avoue que j'ignorais complètement ce fonctionnement-là de la base de données.
Et oui, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait trois sociétés majeures qui avaient été inventées ou créées en Italie, sans parler d'invention. La troisième, c'est Noisefeed. Alors, il n'y a pas que l'Atalanta, qui s'en sert. Il y a pas mal de clubs italiens, tu l'as dit. Il y a des clubs anglais. Il y a aussi des clubs français, d'ailleurs, l'OGC Nice, notamment. Et Noisefeed, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une plateforme qui regroupe un historique assez impressionnant, je dois dire, sur l'état physique des joueurs, leur volume et récurrence de blessures. En fait, ça devient une vraie aide. Là encore, on peut l'associer au processus de recrutement parce que ça permet d'avoir déjà une photographie à l'instant T de l'état physique d'un joueur à travers son historique de blessure. Parce qu'on peut toujours se dire que oui, il y aura la fameuse visite médicale avant la signature, préalable à la signature même. Mais utiliser cette plateforme, c'est déjà anticiper, c'est ce que disait Mathieu, c'est anticiper, gagner du temps, réduire la prise de risque et éviter finalement les mauvaises surprises. Alors en préparation de ce podcast, j'ai parlé au fondateur de cette agence il y a quelques heures, et il m'a expliqué un peu ce qu'on pouvait retrouver sur la plateforme. Donc, au-delà de l'historique des blessures, qui sont catégorisées en 16 paramètres. Donc, en gros, on a la nature de la blessure. Est-ce que c'est musculaire, ligamentaire? Est-ce que c'est un simple coup? Quelle est la partie du corps concernée en détail? Si c'est la cuisse, quel muscle de la cuisse? Si cette blessure a eu lieu en match ou à l'entraînement? Si c'était à la suite d'un choc ou si c'était tout seul? Par exemple, la blessure ligamentaire de Chiesa contre la Roma, c'était tout seul. Donc, ça montre bien que c'est une fragilité qui n'est pas liée à un coup ou à une intervention d'un adversaire. On peut revoir les blessures en vidéo quand elles ont lieu en match officiel. On peut voir la durée d'absence, le nombre de matchs manqués, s'il y a eu une opération, qui a opéré, dans quelle clinique. Vous voyez, c'est hyper, hyper, hyper complet. Et par exemple, ça permet de se rendre compte pour Leonardo Spinazzola, qui s'est blessé à l'Euro gravement. On voit que depuis le début de sa carrière professionnelle, il est sujet à pas mal de blessures et il a déjà raté plus de 100 matchs sur blessure. C'est quasiment deux saisons complètes quand on joue la Coupe d'Europe. Et il n'est pas encore revenu de cette fameuse blessure à l'Euro il y a quelques mois. Et tout ceci est fait à l'aide, comme souvent au niveau de la data, hein, l'algorithme, l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi et c'est là aussi où on revient à l'association data-humain, c'est qu'il y a une intervention humaine des personnes aux quatre coins du monde qui vérifient, qui ajoutent du contexte, qui cherchent des données dans la presse sur des durées d'absence, qui vérifient sur des sites internet officiels, sur des conférences de presse de coach, etc. Et en fait, les clubs, il y a de plus en plus de clubs qui utilisent Noisefeed pour minimiser les risques liés à leur investissement sur l'achat d'un joueur, notamment parce qu'aujourd'hui, on sait l'état de l'économie du football, on sait que c'est compliqué et qu'il faut réduire les risques. Donc, pour réduire les risques, on s'appuie énormément sur la data.
Il ne faut pas oublier que c'est des hommes qui font rentrer les chiffres et qui sont derrière la machine.
Absolument.
Alors, autre fonction quotidienne et concrète des données au club, alors au quotidien pour les clubs, l'aide sur les coups de pied arrêtés. Il y a notamment un Français qui est spécialisé là-dedans, Loïc. Hein.
Oui, il s'appelle Nicolas Jauvert. Alors, il est entraîneur des coups de pied arrêtés à Arsenal depuis le début de saison. Il était à Manchester City la saison passée, avec qui il a été champion d'ailleurs, et il est passé, c'était un ancien analyste vidéo de Montpellier notamment, ou même de l'équipe nationale de Croatie. Et alors Nicolas Jauvert, il est arrivé à Arsenal dans une mission bien précise justement, c'est d'améliorer les performances des Gunners sur les coups de pied arrêtés, qu'ils soient offensifs ou défensifs, et ça portait encore plus ses fruits en début de saison parce que c'était encore plus visible. Là, ça s'est un peu tassé, mais malgré tout, Arsenal était la pire équipe sur coup de pied arrêté offensif la saison passée en Première Ligue, avec seulement 11% de ses buts marqués sur coup de pied arrêté. Et cette saison, déjà, on a doublé le ratio, on en est à 22%. Donc, on voit déjà une amélioration à ce niveau-là. J'ai pu échanger avec lui. Il dit voilà, le travail ne fait que débuter, mais encore une fois, on parle de gains marginaux. Donc, Johan parlait de l'importance de réduire en fait les inconnus dans le foot, et la data sert aussi à ça, et sur des séquences de jeu comme les coups de pied arrêtés, c'est très important parce que ça peut faire tourner un match en
moyenne
faveur.
C'est 30% je crois de buts sur coups de pied arrêtés, c'est ça?
Ouais, à peu près, ouais. Ça peut faire tourner le match en faveur ou en défaveur de l'équipe. On peut aussi citer par exemple Thomas Grønmark, qui est donc un spécialiste des touches, qui a été embauché par Liverpool. Il a fait plusieurs autres clubs. Je crois même qu'il a fait l'Atalanta. Johan, tu me diras si je me trompe ou pas. Mais voilà, c'est pour bosser sur les touches. Alors, ça avait été accueilli pareil avec un petit peu de circonspection au début, ouais, en se disant ouais, mais attendez, un entraîneur des touches, pourquoi pas un entraîneur des talonnades, pourquoi pas un entraîneur de voilà, des petits ponts. Mais si, mais en fait, ça fait rire. Mais quand Liverpool le prend, ils savent qu'ils sont perfectibles sur cette action de jeu en particulier, et qu'avec les gains marginaux, ça peut changer le moindre détail. Encore une fois, à partir du moment où on peut avoir une prise dessus, le maîtriser, pourquoi s'en passer quand on a les moyens de le faire? Et en l'occurrence, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont progressé là aussi sur cet aspect du jeu, et en termes de performance, ça peut leur permettre de faire tourner à leur avantage un match, voire même une saison.
Mathieu, tu connais
Nico,
bien
Nico. Ajouter...
Oui, vas-y, Johan, vas-y.
Juste une petite chose pour montrer encore l'association entre data et humain liée à Nicolas Jauvert, qui a bossé à Brentford aussi, dont Julien nous a parlé tout à l'heure, qui était là encore spécialiste des coups de pied arrêtés. Pour vous donner une idée, Brentford cherchait donc un excellent tireur de coups de pied arrêtés. Donc, comme l'a expliqué Julien, il y a eu une recherche à travers de la data pour trouver plusieurs candidats. Et là où c'est intéressant et où on ne recrute pas sur data, il faut arrêter le mythe de c'est quelqu'un derrière un ordinateur, un geek boutonneux qui clique sur des données, qui fait faire une offre, qui met un montant de transfert, qui fait
conclure le transfert. Ouais, c'est pas Football Manager.
Ça se passe comme ça. Ouais. Exactement, vous avez reconnu Football Manager.
On embrasse, bien Nicolas évidemment.
Nicolas Jauvert, que j'adore d'ailleurs, je joue énormément à Football Manager, enfin je jouais. Nicolas Jauvert a été intégré dans le processus de recrutement. Il a visualisé les candidats, et le candidat qui a été retenu a ensuite été très bon sur cette phase de jeu-là à Brentford. C'est bien la preuve qu'on a associé la recherche de la donnée pour défricher au départ un petit peu le terrain, et ensuite il y a eu l'analyse de l'œil humain du spécialiste, de l'expert, qui a validé la data et qui a ensuite amené à une prise de décision sur un transfert.
Alors tu le connais bien Nicolas Jauvert, toi Mathieu, et tu connais aussi l'utilité de son boulot.
Ouais, je le connais un peu. Effectivement, je pense que bon, lui, sa grande qualité, je pense que c'est pas foncièrement dans la data, c'est surtout dans la méthodologie de l'entraînement qui mène avec ses joueurs. Par contre, là où la data, elle peut être intéressante pour lui et puis aussi pour dans plein d'autres secteurs du jeu, c'est sur l'évaluation en fait, l'évaluation qu'on en fait. Est-ce que mon entraînement il est cohérent? Est-ce qu'il fait progresser les joueurs? Et là, je pense que la data sur les coups de pied, elle aide au-delà du nombre de buts. On peut par exemple regarder le nombre de tirs que prend l'équipe par corner, ou même la qualité des occasions par corner avec les expected goals par shot. Donc en fait, même si la data va pas foncièrement transformer la manière dont Arsenal tire les coups de pied arrêtés, mais par contre, elle va permettre d'avoir une évaluation assez précise de la qualité de nos entraînements et puis de l'orientation de l'entraînement qu'elle doit prendre. Donc je trouve ça assez intéressant sur ça.
Alors Loïc, tu le disais hein, tout à l'heure, il y a en moyenne 30% des buts qui sont marqués sur coups de pied arrêtés, mais lors d'une masterclass en fin d'année dernière, Ralf Rangnick, hein, l'actuel manager de Manchester United, avait soulevé une autre question qui lie à la fois data et travail au quotidien autour de ces fameux 30% de buts inscrits sur coups de pied arrêtés.
If 30% of all the goals are being scored after set pieces, how much of our training time should we invest into set pieces? Huh? 30%. Let's be honest with ourselves. Do we invest 30% of our training time into set pieces?
Voilà, pour les non-bilingues, si 30% des buts sont marqués sur coups de pied arrêtés, 30% de notre temps d'entraînement devrait être investi sur les coups de pied arrêtés. Est-ce le cas? Soyons honnêtes. Alors, c'est vrai, là, Julien, il pose un problème encore qui est intéressant, là, Ralf Rangnick. Est-ce qu'on n'est pas là face à l'une des limites, l'un des dilemmes qu'on a de la data? C'est-à-dire, OK, 30% de buts sur coups de pied arrêtés, est-ce que ça veut dire qu'on doit dédier 30% du taf au quotidien aux coups de pied arrêtés aussi, justement?
Bah, si on arrive à marquer 30% de buts sur coup de pied arrêté en consacrant 5% seulement du temps à l'entraînement, ça veut dire que c'est extrêmement efficace. On peut voir la question dans l'autre sens. Alors, est-ce qu'en consacrant une journée complète au coup de pied arrêté, ça serait suffisant pour faire monter le voilà, c'est toujours pareil. Là aussi, les datas peuvent aider à optimiser un petit peu le processus d'entraînement. C'est pour ça que toutes les charges physiques sont mesurées vraiment au mètre près, parcourues à haute intensité pour se calquer sur un coefficient en fonction du jour par rapport à l'intensité recherché en match, etc. Donc en effet, alors c'est sûr que les coups de pied arrêtés sont peut-être sous-entraînés dans pas mal de clubs parce que aussi on peut avoir encore cette idée que ça dépend beaucoup du hasard, il y a beaucoup de facteurs sur lesquels, qui peuvent influer, alors qu'en fait il y a plein de stratégies à mettre en place avec les blocs, avec des fausses pistes, avec des courses coordonnées, avec des combinaisons courtes, voilà, il y a plein de choses à mettre en place pour améliorer au moins la dangerosité de ces coups de pied arrêtés là. Donc voilà, après, il y a le temps qu'on y consacre. Puis après, en effet, il y a peut-être aussi le transfert des constatations statistiques sur le terrain, à la fois l'entraînement et un match. Et c'est ce transfert qui est délicat et c'est toute la mission et l'enjeu pour l'analyste de réussir à faire adhérer à ses recherches un entraîneur qui peut-être parfois n'est pas toujours très éduqué et puis pas toujours très enclin à se fier à ce genre de données.
Alors c'est vrai que c'est là, j'allais en venir, tu mets le doigt dessus Julien, mais Mathieu, toi qui bosses justement au quotidien là-dessus, qui mélange la data avec finalement le concret, est-ce que la limite dans tout ça finalement, c'est pas la différence qu'il y a entre finalement l'atmosphère, l'univers de l'entraînement et celui du match? Voilà, il y a aussi l'aspect, la pression à gérer, le stress, etc. aussi qui rentre en ligne de compte, ça c'est pas quantifiable.
Oui, bien sûr, on sait très bien que la performance est multifactorielle, donc sur ça, il n'y a pas de doute. Par contre, je voulais revenir juste sur les 30% marqués sur coup de pied arrêté par une équipe, et puis pour souligner l'importance de la contextualisation, parce que bien souvent, les équipes qui sont à 30% de buts marqués sur coup de pied arrêté, c'est qu'en fait, elles ne marquent pas beaucoup de temps, pas beaucoup de buts dans le jeu. Donc il faut bien comprendre ce qu'ils veulent dire ces 30%. Est-ce que c'est 30% de 10 buts ou 30% de 40 buts? Et pour moi la différence elle est grande là-dedans, parce que par exemple il y avait une équipe en Super League qui marquait énormément de buts sur coup de pied arrêté comparé au nombre de buts qu'ils marquaient, mais c'est qu'en fait ils marquaient très peu de buts. Donc il y a aussi ça à bien comprendre d'une équipe quand on parle de pourcentage de buts marqués. Et ensuite, c'est clair que voilà, pour revenir sur les liens entre l'entraînement, le match et la data, bah effectivement, tout ça, c'est multifactoriel. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et donc, c'est clair que la data résolver tous les problèmes que le foot pose, quoi.
Ça t'inspire ce que dit Rangnick, toi aussi, Loïc ?
Oui, enfin... Après, je comprends pas trop le postulat de départ qu'il a, justement, de dire il faudrait que, en gros, parce que ça représente X% de réussite, il faudrait investir X%.
Mais justement, lui, il a l'impression qu'il n'a pas de réponse, au fait. Il se dit, voilà, on est face à un truc. On marque
non, mais
des buts
après, ce que rappelait Mathieu à juste titre, effectivement, il faut. C'est pas parce qu'on est performant en ratio sur coup de pied arrêté qu'on est forcément une meilleure équipe qu'une autre, en fait. C'est vrai qu'il y a des équipes, souvent, on voit en première ligue, par exemple, Burnley. Burnley est très performant sur, oui, sur coup de pied arrêté.
Mais il ne marque pas beaucoup, justement. Ouais.
Voilà, donc c'est aussi le problème. Et on peut être une équipe comme Manchester City, marquer plus, beaucoup plus dans le jeu que sur coup de pied arrêté et être encore plus performant. Donc je pense que tout est une question. En fait, il faut poser les choses et se dire qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer et en quoi la data va me permettre de, d'améliorer ces, ces choses-là. C'est, que ce soit pour les coups de pied arrêtés, on a parlé des gains marginaux, mais même dans, dans le jeu, savoir, et là on peut utiliser justement les statistiques qui sont désormais à notre disposition, qu'on n'avait pas il y a, il y a 20 ans par exemple, qui sont ce qu'on appelle les nouveaux metrics, donc notamment les expected goals, donc qui mesurent la qualité d'un tir, la, la probabilité qu'un tir se transforme en but. Et c'est très important parce que Julien tout à l'heure évoquait le postulat de Brentford et de Midtjylland qui disent, qui part du principe que le classement ment, en fait, qu'il ne faut pas regarder le classement, il ne faut pas regarder les résultats, il faut aller chercher la performance.
Y compris d'ailleurs le classement des buteurs, hein. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire
absolument.
Eux, ils s'intéressent au XG justement et pas au but marqué finalement.
Voilà, absolument, mais que ça marche pour les buteurs, ça marche pour les passeurs décisifs, mais ça marche aussi pour le classement. C'est-à-dire que si tu vois que Manchester City est en tête, Chelsea deuxième et Liverpool troisième par exemple, il va te dire non, ce n'est pas forcément la réalité des choses. Si ça se trouve, Liverpool devrait être premier. Parce que justement, dans les, en termes d'expected goal, que ce soit offensif ou défensif, par rapport aux tirs qu'ils ont subis aussi, parce que c'est très important, à la qualité des occasions qu'ils ont eues et qu'ils ont subies, bah, par exemple, ils surperforment ou ils sous-performent. Ça permet justement des fois de, comment dire, de relativiser des bonnes séries où on se dit on marche un petit peu sur l'eau. Tu connais, Nico, hein, les séries, genre 7-8 matchs avec des victoires consécutives. Et là, tu dis, ouais, ils sont chauds et tout. Bah, c'est peut-être aussi là la part de réussite est peut-être ouais, un peu trop élevée. Et inversement, une équipe qui galère, une équipe qui n'arrive pas à s'en sortir en termes de résultats, par exemple, et ben parfois peut cacher dans ses performances, et on le voit grâce à ces chiffres-là, on voit que finalement, ils arrivent à se procurer des occasions, donc que ce n'est pas si négatif que ça. Et c'est vrai que c'est toute une façon de réapprendre aussi à voir le foot, c'est-à-dire on le regarde au-delà des simples résultats.
Alors moi, je vais me faire l'avocat du diable, mais ça veut dire qu'en gros, tu es en train de nous dire ça se trouve, bientôt, on ne regardera pas le classement objectif tel qu'il est. Il y en aura un classement d'expected points.
Non, parce que forcément, le résultat, c'est ce qui compte à la fin.
Oui.
Mais encore une fois, le résultat ne dit pas tout. Ce n'est pas parce, oui, que tu as de bons résultats que tu es une bonne équipe. Ce n'est pas parce que tu as des mauvais résultats que tu es une mauvaise équipe. Mm. Ce n'est pas toujours comme ça. Tu vois, c'est pas, la réflexion, elle ne doit pas être binaire. Et c'est pour ça qu'on a tous ces outils-là pour nous aider à voir. Et c'est surtout... c'est destiné à nous médias dans nos analyses, dans ce qu'on va, la façon dont on va traiter telle ou telle actualité, tel ou tel joueur, tel ou tel club. Mais c'est destiné aussi, et on l'a dit, au travail des, ouais, clubs. Les clubs, eux, regardent ces chiffres-là. Enfin, en tout cas, alors, ceux qui sont le plus développés. Mais ça les aide, Nico, c'est une vraie aide pour, dans cette perspective-là.
Oui.
Ouais, Nico, j'ai deux exemples très rapides pour...
Vas-y.
Qui vont dans le sens de ce que vient de dire Loïc. Deux exemples italiens, forcément. Sur les surperformances ou les sous-performances. Par exemple, Piontek, quand il arrive au Genoa, à la mi-saison, il est dans une surperformance assez exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il met 10 buts de plus que la qualité des occasions produites. Et on se dit tous, il est en surperformance, combien de temps ça va durer? Est-ce que ça peut durer? Est-ce que du coup, un club doit l'acheter alors qu'il est peut-être dans une phase d'extase totale devant le but? Et on ne sait pas si ça peut durer parce que ses stats en carrière ne montraient pas ça. Bah, on a eu la réponse, il est parti à Milan pour 35 millions d'euros, Milan qui pensait flairer la bonne affaire, et en fait on a vite vu qu'il était simplement pendant 6 mois au-dessus des nuages, et que ensuite il est redevenu à un niveau tout à fait normal, et ça a été compliqué. Et deuxième exemple, collectif cette fois avec Cagliari. Cagliari, c'est je crois saison, je sais plus, je crois que c'est 2019-2020, à la mi-saison, au mois de décembre, ils sont 4e. Mais en fait, Cagliari, ils ont 15 points de plus que ce qui est attendu, entre guillemets, les fameux expected points. Et on a une équipe qui est en surperformance, les tirs de Nainggolan de 30 mètres qui finissent en lucarne, qui débloquent des matchs, qui valident des victoires 1-0, etc., etc., etc. Et en fait, ils se sont effondrés par la suite. Et ensuite, ils ont retrouvé le bas du classement les saisons suivantes. Et encore cette saison, d'ailleurs, ils sont dans les trois derniers, où on se dit, bah, c'est peut-être plus proche de la réalité que les surperformances. Donc, c'est bien pour montrer que... Il faut aussi parfois, il ne s'agit pas de tomber dans le tout stat ou l'aveuglement que j'évoquais au tout début de ce podcast-là. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'œil humain qui te permet de dire « Ah ouais, Cagliari, mais là c'est incroyable, il gagne des, ouais, matchs, on se demande comment, etc. » Et c'est, les stats le montrent aussi.
Alors Mathieu, je me retourne vers toi à nouveau, juste pour revenir à un autre exemple concret que toi tu vis au Servette. Est-ce que toi, en tant que performance analyste, bah, les bases de données, les données que tu sors, les datas que tu sors, elles aident ton entraîneur à faire ses choix au quotidien par exemple aussi?
Ouais, bien sûr. Alors y a évidemment les données athlétiques qui servent un peu à contrôler la charge de l'entraînement, savoir si les joueurs se sont bien entraînés athlétiquement ou pas. Et donc ça, forcément, ça, c'est une aide pour dessiner de l'état de forme d'un joueur avant un match. Et puis après, il y a toutes les datas qui sont un peu plus liées au jeu. Vous parliez d'expected goals, mais il y a aussi l'expected threat, par exemple, qui est capable de mesurer la menace qu'un joueur produit pour son équipe. Et donc, par exemple, sur certains matchs où on sait qu'on va avoir le ballon, peut-être qu'on va préférer un joueur qui met beaucoup de menaces. Alors évidemment, l'entraîneur, il a des convictions et puis il a surtout une grande connaissance de ses joueurs. Donc souvent, souvent on est d'accord, il n'y a pas de grande surprise. Mais sur certains points, ça peut l'aider à prendre une décision, à dire « Ah oui, ce joueur, il fait un peu plus ça que celui-là. Ah oui, celui-là, il fait un peu plus ça que ce joueur-là. » Donc c'est jamais des études statistiques très poussé, c'est surtout de la stat descriptive, mais ça peut aider dans la prise de décision pour le week-end.
Et alors, en revanche, quand on préparait ce podcast, tu disais, Mathieu, que la data servait finalement surtout au club, et notamment à ton club au Servette, d'analyser les adversaires. C'est surtout ça aussi, il y a aussi cet aspect-là, cette fonction-là qui est faite, c'est la préparation finalement de l'adversaire.
Bah ouais, en fait, comme tu disais, tu disais tout à l'heure, la data, elle sert d'un à prendre de meilleures décisions et deux à gagner du temps. Et donc en fait, souvent, ce qu'on regarde quand on regarde l'adversaire, c'est essayer de trouver des récurrences, essayer de trouver ce qu'on appelle des patterns. Et pour ça, la data, elle est beaucoup plus forte que l'œil humain. Je prends un exemple tout bête. Si on veut regarder le gardien adverse, s'il joue court, long, à droite, à gauche, s'il a un joueur préférentiel, une cible. S'il joue vite, s'il joue pas vite, etc. Bah, en fait, tout ça avec de la data, c'est fait en quelques algorithmes et quelques lignes de code, et puis un clic. Alors que si je devais faire ce travail-là, par exemple, sur 6, 10, 20 matchs, bah, ça me prendrait énormément de temps. Et en plus, avec la data, je suis capable de voir aussi les évolutions de jeu du gardien, c'est-à-dire ce qu'il a fait les 5 derniers matchs, mais aussi voir ce qu'il fait depuis un an, ce qu'il fait depuis 10 matchs. Donc en fait, ça laisse beaucoup plus de flexibilité dans l'analyse.
Alors Julien, ces bases de données qui sont collectées et répertoriées, étudiées par pas mal de clubs, alors qui pour certains mettent d'ailleurs carrément des cellules en recherche et développement, explique-nous ça.
Ouais, parce qu'il y a ce côté en effet très pratique de la data au quotidien pour améliorer la performance, à la fois physique, à la fois tactique aussi, dans l'analyse des adversaires, dans le recrutement, mais il y a aussi tout ce qui doit encore être exploré. Et pour ça, on a besoin du côté des clubs de développer des modèles. Liverpool en est le meilleur exemple, puisqu'à la base de leur succès, il y a une unité de data science de 4 personnes, avec notamment un ancien astrophysicien, un mathématicien ancien champion d'échecs et un docteur en physique des particules. Donc des personnes qui n'ont a priori rien à voir avec le monde.
Je rêverais de dîner avec eux.
Mais ce serait sûrement très intéressant.
Ah ouais, ouais.
Le foot, mais le foot accueille aujourd'hui ces profils-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont mettre en place des modèles pour essayer de passer notamment de la description, parce qu'on est beaucoup sur la data descriptive par le passé, à la prédiction. On a essayé de mettre en place des modèles en effet prédictifs sur le rendement des joueurs au niveau du recrutement. Ça a été le cas un petit peu aussi pour l'analyse dans le recrutement du Jürgen Klopp, par exemple, où ils ont constaté que sa dernière saison à Dortmund, qui était un peu ratée, eh bien, là aussi, ça rejoint ce qu'on évoquait il y a quelques minutes en termes de performance. Ils n'avaient pas été récompensés en termes de points par rapport à ce qu'ils produisaient sur le terrain. Et donc, il y a tous ces modèles qui sont créés par ces profils-là. Le Barça aussi a le Barça Innovation Hub, qui est une institution référence maintenant dans l'exploration de thématiques data. Alors, pas seulement, mais ça travaille notamment avec des données tracking sur des algorithmes pour essayer de mieux intégrer la position de chaque joueur à chaque instant, son orientation, mieux évaluer des situations de jeu, bref, des choses que les data événements, par exemple les passes, les tirs, etc., n'arrivent pas à saisir. Et puis, il y a aussi, par exemple, City qui a recruté il y a quelques mois beaucoup de spécialistes de l'intelligence artificielle. Donc, du côté des clubs, on est vraiment en train de faire ce travail de fond aussi pour essayer de repousser les frontières de ce qu'on peut réussir à saisir avec les données.
Ça, c'est quand même fou, ça. Non mais c'est fou de se dire quand même, c'est devenu finalement des scientifiques.
Alors je tempérerais juste, c'est vrai que là Julien cite les exemples de Liverpool, City, malheureusement tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne.
Non, hein. Tout le monde n'a pas les moyens, c'est sûr, ça demande des investissements.
Il y a encore...
Ça c'est comme dans les... c'est la vie des sociétés, c'est les grosses sociétés aussi côté au CAC 40 qui ont des cellules en recherche et développement aussi. Hein.
Oui, puis
c'est rare qu'une PME le fasse par exemple.
Non mais par exemple le Paris Saint-Germain qu'on peut qualifier quand même de grand club n'est pas pas du tout dans cette optique-là, il n'est pas dans cette perspective-là. Ouais,
il l'était avec Mathieu Lacombe quand même, qui était un spécialiste aussi de ce genre de recherche, qui est parti à Parme en série B, avec des propriétaires américains. Et ça vient souvent d'ailleurs, ce genre de choses-là, d'initiatives de propriétaires américains qui viennent importer des méthodes à Liverpool. C'était le cas avec Damien Comolli justement, qui met ça aussi en place maintenant à Toulouse, avec un fonds d'investissement américain. Donc voilà, c'est un petit peu cette culture-là aussi qui est dans les franchises américaines, dans tous les sports, où ils ont vraiment des cellules d'analyse gigantesque, voilà, on n'imagine même pas, mais avec beaucoup plus de moyens aussi, évidemment.
Ouais, ça rejoint ce que disait Johan tout à l'heure. Tu prenais l'exemple de Milan, tu disais, il vaut mieux se pointer avec les stades pour recruter un joueur, hein, Johan, tout à l'heure. Donc, ouais, ça rejoint un peu ça.
Ouais, exactement. C'est un prérequis maintenant pour quand on discute avec le fonds Elliott d'investissement dans le club, ça devient nécessaire, une obligation.
Alors, cela dit, Mathieu, pour toi, il y a un vrai distinguo à faire, par exemple, entre finalement ces cellules de recherche et développement entre Liverpool et le Barça, par exemple.
Ouais, bah en fait, c'est toujours la distance qu'il y a entre le travail de ces gens-là et l'impact sur la victoire du week-end. Et je pense que, par exemple, le Barça, ils en sont très loin de ce que je connais, peut-être que je dis une bêtise, mais c'est, à mon avis, un département beaucoup plus scientifique qui est là comme, on va dire, du consulting. Mais en plus, toute cette recherche, elle est ouverte au public. C'est-à-dire que la plupart des recherches du Barça, elles sont publiées dans des revues internationales. Et donc, tout le monde a quasiment accès à ces recherches-là. Je pense que Liverpool, il se rapproche un peu plus du match, eux, même si ce n'est pas forcément pour le week-end, mais par exemple dans le recrutement ou dans ces choses-là, ils sont un peu plus orientés terrain. Par exemple, William Spearman, dont vous parliez juste avant, et ben lui, il a fait un modèle qui s'appelle le pitch control. C'est la capacité d'un joueur à gérer l'espace et à utiliser le mieux l'espace. Bon, même si ça t'aide pas foncièrement à gagner le match le week-end, c'est quand même quelque chose qui est très corrélé à l'entraînement. Et puis, je sais qu'il y a pas mal de clubs maintenant qui utilisent le pitch control comme évaluation du match ou comme aussi processus d'entraînement. Donc, je pense qu'il y a toujours ce rapport. Moi, par exemple, dans mon club, j'ai un lien direct avec le match. Ça veut dire que moi, mon objectif quand je travaille, c'est d'aider le coach et le staff à gagner le match le dimanche ou le samedi. Alors que pour ces deux clubs-là, je pense que leur intérêt, en tout cas, pas évidemment qu'ils veulent gagner les matchs le week-end, mais je pense que pour les départements R&D de ces clubs-là, ils sont quand même assez éloignés d'aider le coach à gagner le match le week-end.
Il y a quand même une question qui se cache derrière ça aussi, hein, quand on parle de tous ces gros clubs qui ont ces cellules de data, de finalement quasi scientifiques qui sont faites. Est-ce que finalement on peut être aujourd'hui manager de haut niveau et refouler la data ? Je sais pas. Alors on préparait le podcast. Il y a même des rumeurs qui disent que Guardiola est pas très chaud vis-à-vis des stats, de la data, etc. Est-ce que ça existe ? Je sais pas. Toi, Mathieu, est-ce que il t'est arrivé de bosser avec des coachs qui refoulent les statistiques aussi comme on le fait parfois dans les médias aussi finalement ?
Ouais, je pense que alors de ce que j'ai entendu, effectivement, Guardiola il a pas l'air hyper chaud avec les statistiques, mais parce qu'il a une méthodologie de l'entraînement et il a des concepts de jeu très précis, et donc en fait lui il est tellement sûr de lui, je pense qu'il a pas besoin de gens qui viennent l'aider à réfléchir. Après, effectivement, moi aussi par exemple au Servette, je suis avec un coach qui est pas de la même génération que moi, et donc qui, à la base, n'est pas très friand data. Par contre, là où je peux vraiment l'aider, c'est quand, en fait, il se pose une question, qu'il n'a pas la réponse, et que moi, je viens lui apporter la réponse plus ou moins, parce que souvent, c'est jamais tranché oui ou non, c'est plutôt des axes de réflexion. Mais disons que dès que je viens lui apporter une réponse à ses questionnements par la data, ça aiguise sa curiosité, et puis dans le temps, en fait, on progresse sur ça, et puis on arrive à avoir des discussions vraiment poussé sur la data, quoi.
Julien, tu dirais quoi, toi, à cette question, toi qui as écrit pas mal sur les entraîneurs et sur Guardiola aussi, notamment, d'ailleurs?
Alors, peut-être que lui, personnellement, en effet, n'a pas forcément une appétence pour la data en tant que telle. Néanmoins, il y a beaucoup d'éléments de son modèle de jeu qui semblent être optimisés statistiquement. Par exemple, ils vont cibler en priorité certaines zones. Alors, c'est peut-être lui de l'intuition qu'il a eue de par son ressenti, son vécu de joueur.
Ou peut-être les mecs qui l'entourent aussi. Hein.
Et les mecs aussi. Voilà, exactement. Alors après, c'est toujours pareil, comment on transmet l'information au sein d'un club. Mais disons que, par exemple, il va cibler des zones de centre qui sont statistiquement optimales. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a vu dans la stat que cette zone de centre était optimale, ou est-ce que c'est parce qu'il sentait par son vécu de footballeur que oui, en centrant de cette zone-là, on crée des occasions plus dangereuses qu'en centrant du côté de la ligne de touche. Mais donc, il y a des choses qui se rejoignent là, finalement, naturellement dans son modèle de jeu. Alors, peut-être qu'en effet, à l'origine, il n'y a pas la data, mais il y a une sorte de symbiose entre les deux qui s'est presque fait naturellement de par les idées de Guardiola et du coup, ça se valide un petit peu dans les deux sens.
Ouais, Johan, ça t'inspire toi aussi cette thématique ?
Ouais, bien sûr. Après, dans les échanges qu'on peut avoir avec des entraîneurs, y a aussi un roulement de génération qui arrive, un changement de génération. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes entraîneurs qui accèdent à des postes importants, qui ne sont plus simplement des adjoints, mais qui arrivent à la tête d'équipe première et qui sont, sans être forcément friands, mais qui sont sensibilisés, en tout cas, à l'apport que peut avoir la data et qui, s'ils ne le font pas eux-mêmes, ont des adjoints, que ce soit des analystes vidéo, que ce soit des sports scientists, que ce soit sur le domaine justement médical, etc. Par exemple, sur le domaine médical, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la data, elle peut être aussi sur ce domaine-là. On entend souvent, et justement, c'est à ça que sert la data aussi et à corriger certaines impressions. On entend souvent que les joueurs se blessent de plus en plus souvent, qu'il y a de plus en plus de joueurs blessés. Vous savez, on dit ouais, le rythme des matchs, etc., etc. Il y a une enquête, enfin une étude, pas une enquête, pardon, publiée dans le British Medical Journal, faite par l'UEFA, sur 3300 joueurs et 49 équipes, qui montre qu'en fait, l'incidence des blessures, que ce soit à l'entraînement ou au match, baisse de 3% par an, entre 2000 et 2019. Donc la data peut être aussi au service du secteur médical, au service du secteur de la performance physique, au service du recrutement, au service de l'entraîneur, au service des adjoints. Bref, même si les entraîneurs sont pas forcément friands ou fans de data, il y en a de plus en plus qui sont sensibilisés à cet apport-là, à travers soit des lectures, à travers des personnes qui sont dans leur staff, etc. Et je trouve ça intéressant parce qu'on est en train aussi de changer de génération et de laisser doucement derrière nous le truc de ouais, bah, moi j'ai pas besoin de savoir telle ou telle chose pour savoir qu'un attaquant est bon ou pas bon. Ça, c'est un peu le discours qu'on entendait avant et qu'on entend de moins en moins, fort heureusement.
Et en guise de conclusion, une citation d'Alfredo Ruiz Bridge, consultant data et business stratégique et spécialisé dans les sports analytics. Je cite : les statistiques n'ont pas de réponse parce qu'elles ne le peuvent pas, mais elles t'offrent une succession de questions. Je sais que tu l'aimes bien cette citation, Mathieu.
Ouais, j'aime bien parce qu'en fait, on parle souvent d'aide à la prise de décision. Et en fait, c'est souvent une aide à la réflexion. En fait, ça soulève souvent des questions. Enfin, les réponses, elles ne sont jamais tranchées. Et du coup, ça permet de se poser vachement de questions sur ce que ça apporte et comment on va faire évoluer les choses grâce aux data.
Mathieu, merci d'avoir été avec nous. Mathieu Feijan, performance analyste au Servette de Genève. Belle saison à toi en Suisse, du coup, Mathieu.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci Julien Momon, que vous retrouvez sur sa chaîne YouTube. Salut Julien, à très bientôt.
Salut Nico, merci pour l'invitation.
Bah non, merci à toi, tu reviens quand tu veux. Et puis merci à Johan Crochet, Loïc Moreau, que vous retrouvez sur RMC, bien entendu. Merci les gars.
Merci à vous.
Avec plaisir.
Et merci à tous d'avoir été avec nous. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, quel que soit votre support, votre appli. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner au podcast After Galaxy pour ne pas louper les prochains épisodes. Merci à Jimmy Brown à la production de ce podcast, à Kevin Pogam à la réalisation. On se quitte comme d'hab avec du son. Wolfie Raps et son Check the Statistics. Bisous et prenez soin de vous. Man's is hot. Check the statistics. Check 'em. My cloud higher than yours. Proof if you check the statistics. Facts. With the Lord is my witness. Take this out, you the misfits. Please, Rice gum said you irrelevant. Facts. Check the statistics. Man's is hot. Man's is hot. Check the statistics. Check 'em. My cloud higher than yours. Proof if you check the statistics. It's big. With the Lord is my witness. Take this out, you the misfits. Hold that out, nigga. Rice gum said you irrelevant. Facts. Check the statistics.
Yeah. RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.